Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu Média et Culture. J'arrive à le dire, c'est pas comme si c'était la 661e fois que je le disais. Média et Culture au sens large, en solo ou en duo. Vous allez comprendre, on va également parler cinéma et musique classique. Mais avant cela, notre info média. Quand Mediapart enquête sur des publications douteuses de Mediapart. Le site d'information a hébergé 634 fausses notes, si j'ose dire, sur son espace participatif. Derrière cette entreprise de manipulation de l'information, une société française qui travaillait notamment pour le compte de dictateurs ou de grosses marques du CAC 40. Le journaliste de Mediapart, Antoine Rouget, co-auteur de l'enquête, sera notre invité. Nos invités ensuite, l'Euro féminin de foot, c'est bientôt. La compétition démarre le 6 juillet en Angleterre, à côté de Grégoire Margoton et de Bichente Lizarazu. TF1, qui a l'exclusivité en clair de la compétition, propose un duo inédit, Marine Marc et Julien Ménard. Ils seront dans ce studio. Enfin, un autre duo à partir de 10h, le groupe Cat Centuries, Nina Goern et Johan Henkin. On va parler de leur dernier album qui s'appelle Ali ou Allier. Et une tournée, mais sans les chats. Ils viennent de Toulouse, ils vont retrouver la Toulousaine Lisa Marie Marquez. Ce sera le portrait pré-fame. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
Tous les détails de la rentrée du groupe M6, beaucoup de nouveautés, vous allez le voir. Le journaliste du Point, auteur des fausses révélations contre Raquel Garrido et Alexis Corbière, porte plainte. Et puis il est aussi condamné dans une autre affaire, hasard de l'actualité. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont aimé regarder Drag Race France, samedi soir sur France 2. Et puis Disney, qui tente de se racheter auprès de Johnny Depp avec un gros chèque, vraiment un très gros chèque.
Mais d'abord, les audiences à la télévision qu'ont regardé les Français hier soir, le trio.
Ils ont regardé France 3 loin devant, un tandem 4 980 000 téléspectateurs hier soir, 26,4% de part d'audience. C'est mieux que la semaine dernière et c'est même mieux que depuis le lancement de la saison. Donc c'est la 6e semaine et c'est la meilleure audience. Bon, il n'y a plus Koh-Lanta en face aussi, hein, ça aide.
C'est vrai, mais quand même très très bon score vu la météo.
Bien sûr, et attendez, le deuxième épisode est plus fort que le premier, il est à 5 millions. Donc, ce qui arrive rarement, ce qui était déjà arrivé sur cette série il y a quelques semaines. Deuxième, TF1 avec Harry Potter et l'Ordre du Phénix, 2 430 000 téléspectateurs, 14,7% de part d'audience, un classique, hein, Harry Potter. Et puis troisième, M6 avec la série 911, 1 800 000 téléspectateurs, légèrement en hausse là aussi par rapport aux semaines précédentes, 9,7% de part d'audience.
Culture Média.
On débute ce journal des médias avec les nouveautés pour la rentrée du groupe M6, nouveautés annoncées hier.
Oui, on va commencer par celle de la chaîne M6, des nouveautés dans tous les genres, hein, jeux, documentaires, fiction, divertissement, autant de programmes qui, d'après la chaîne, répondent à trois maîtres mots, se rassembler, se rapprocher et s'engager. M6 mise à la rentrée prochaine bon, sur tous ces programmes phares qu'on connaît déjà, Top Chef, Pékin Express, L'amour est dans le pré, etc. Mais aussi sur des nouveaux divertissements, un grand jeu événement, Le Traître, c'est inspiré du jeu de société Le Loup-Garou, un autre
sympa,
nouveau... Vous verrez, ça a l'air super. Trois émissions. Un autre nouveau jeu où six experts d'M6 vont affronter 100 personnes du public sur des questions de culture générale. Et ces experts, ce sont par exemple Mac Lesguy pour les sciences, Christina Cordula pour la mode, Philippe Etchebest pour la cuisine, etc. C'est un jeu baptisé Qui peut nous battre. Une nouvelle émission de dating aussi, de rencontres amoureuses. Bon, ce n'est pas très étonnant de la part d'M6, hein, quand on voit le succès de L'amour est dans le pré et de Marie au premier regard. Alors ce concept, la chaîne va aider des Français partis vivre au bout du monde, partis ouvrir des chambres d'hôtes, à trouver de vraies relations amoureuses stables en faisant venir des candidats depuis la France. Ça va s'appeler Coup de foudre au bout du monde. Ce sera d'ailleurs sur 5 continents différents, 5 pays différents.
Et puis la grande annonce pour la rentrée, c'est un documentaire événement consacré à Johnny Hallyday.
Oui, Johnny par Laetitia, 25 ans de la vie intime de la famille qui seront racontés par Laetitia Hallyday, avec des vidéos personnelles du couple jamais diffusées ou des moments de tournage rarement montré auparavant. Oui, c'est vraiment un gros coup pour M6 qui a tout de suite accepté le projet. C'est ce que m'a raconté Guillaume Charles, qui est directeur général des programmes d'M6.
C'est un projet qui est vraiment porté par Laetitia Hallyday. Hein. C'est son envie, c'est son intention. Elle est venue voir la chaîne avec son producteur Victor Robert, avec son réalisateur William Carell. Donc je dirais que, voilà, en collaboration évidemment avec la chaîne, c'est avant tout une envie qu'elle a de partager une facette de ce personnage que toute la France aime, de son histoire à elle, de son histoire à lui, et de la partager avec nous. Et nous, on a évidemment dit oui tout de suite.
Mais dans un tout autre genre, il y aura aussi le documentaire de Karine Lemarchand, Trans unique en leur genre, qui suit la transition de trois personnes de trois générations différentes. Côté fiction, plusieurs nouveautés qui ont toutes un point commun, raconter des combats de femmes. C'est une véritable volonté éditoriale de la part d'M6. Et puis aussi des soirées événementielles avec le retour par exemple de Michael Youn et son Morning Night qui a promis avec son équipe, je cite, de faire de la merde, c'est ce qu'on fait le mieux. Fin de citation. Et puis le retour aussi de Caméra Café pour fêter les 20 ans du programme. Ce sera un unitaire diffusé en prime.
C'était un groupe punk qui avait lancé ça. Il s'appelait Starshooter. Et sur la grosse caisse, il y avait écrit Starshooter, c'est de la merde. On était en 77-78. Voilà
culture.
Donc pour la chaîne M6. Et le groupe a également annoncé des nouveautés sur ses autres chaînes. Ces autres déclinaisons.
Exactement, notamment des nouveaux feuilletons documentaires sur Sister, une immersion dans les supermarchés et le retour du Hit Machine sur W9. Et puis sur Teva, une émission sur le sexe, sur la sexualité, baptisée Orgasmique. C'est l'humoriste Rosa Burstein qui l'animera, accompagnée d'une thérapeute et d'une sage-femme. Un programme hebdomadaire et chaque semaine, un thème sera traité par émission, polyamour, désir, fantasme, etc. Teva a déjà produit des documentaires autour du sujet, mais tenait à y consacrer une émission. Écoutez Catherine Schoeffer, qui est directrice générale de la chaîne.
Ça faisait quelques années qu'on cherchait comment aborder la sexualité, parce que personne ne le fait en télé, en tout cas de manière vraiment en y dédiant une émission. C'est des sujets à la fois qui plaisent, je pense qu'il y a beaucoup de non-dits et les gens ont besoin d'échanger sur le sujet. Et il y avait donc une place à prendre et même un rôle à prendre pour Teva sur ce sujet. On se dit que c'est une opération de santé publique de mettre l'accent sur la sexualité qui fait partie intégrante de nos vies. Et justement, c'est l'occasion d'en parler simplement, sans ricaner, sans gêne.
Toutes ces nouveautés, vous pourrez les retrouver à la rentrée sur les chaînes du groupe M6. Et puis nous, on est bien contents parce qu'on aura plein de programmes à vous faire découvrir la saison prochaine. Mmh. On vous en parlera au fur et à mesure quand les programmes sortiront.
Nous recevions Étienne Jernel, le patron du Point, qui s'était expliqué en exclusivité sur la vraie fausse affaire Garrido-Corbière. Le journaliste du Point, auteur de ces fausses révélations contre Raquel Garrido et Alexis Corbière, porte plainte.
Oui, le feuilleton continue. Aziz Zemmoury a porté plainte pour abus de confiance contre l'ex-député UDI Jean-Christophe Lagarde et également contre un ancien policier des renseignements territoriaux, Noah Manoir. Il a donc en fait révélé sa source, qui selon lui serait à l'origine des fausses accusations. Il raconte avoir été contacté donc par cet ex-policier qui l'aurait mise en relation avec la femme de ménage sans papier qui prétendait travailler pour le couple d'élus. Ce même homme aurait aussi recontacté le journaliste pour savoir où en était la publication de l'article. C'était aux alentours du second tour des législatives, selon Aziz Zemmoury. Le journaliste avait alors expliqué que la mise en ligne était pour l'instant bloquée par la direction. Voilà pour le rôle prêté à cet ex-policier qui a nié ses accusations dans une vidéo sur Facebook. Qu'en est-il de Jean-Christophe Lagarde ? Eh bien, sa femme aurait un lien avec l'ex-policier. Ils travailleraient ensemble à la mairie de Drancy. Et puis l'ancien député avait publié un tweet par erreur qui faisait allusion au fait que l'article était bloqué par la direction du Point. Information que seul l'ex-policier avait, selon Aziz Zemmoury. Le tweet a depuis été supprimé. Jean-Christophe Lagarde, qui je le rappelle, était candidat en Seine-Saint-Denis au second tour des législatives face à Raquel Garrido. Et c'est elle qui a été élue.
Et je précise que le directeur du Point nous a annoncé qu'une enquête du Point serait publiée dans l'hebdomadaire sur cette affaire. Ce sera publié demain. Le Point et Aziz Zemmoury n'en ont pas fini. Ils ont par ailleurs été condamnés pour un autre article.
Ouais, hasard de l'actualité, le jugement est tombé hier. Ils étaient attaqués pour diffamation par Sand Van Roy. C'est une actrice qui accuse Luc Besson de viol et d'agression sexuelle. Dans un article sur le site internet du Point, Aziz Zemmoury avait raconté que l'actrice avait déjà déposé une autre plainte pour viol en Belgique contre un inconnu, ce qui est faux. Les enquêteurs ont pu le vérifier. Le journaliste aurait eu accès à cette information via la déposition de Luc Besson auprès des enquêteurs. Le Point avait écrit « Luc Besson a mis en doute ces faits de viol étant donné qu'en ce qui le concerne, ils sont faux », a-t-il affirmé. La justice a donc pointé du doigt ces insinuations du journaliste dans son article qui, selon elle, semble prendre fait et cause pour Luc Besson. Elle a estimé que ce passage de l'article déconsidérait la procédure engagée par l'actrice. Étienne Jernel, directeur de publication du journal, et Aziz Zemmoury sont donc condamnés à payer plusieurs milliers d'euros d'amende, mais aussi de dommages et intérêts et de frais de justice à Sand Van Roy. Le passage incriminé doit aussi être supprimé du site.
France 2 va finalement diffuser l'intégralité de Drag Race France, la compétition de drag queen.
La chaîne a diffusé le premier épisode samedi dernier. La suite devait être uniquement mise en ligne sur la plateforme France TV Slash, mais face au succès du programme sur la 2, en plus de 900 000 téléspectateurs, la chaîne a changé d'avis et proposera donc les autres épisodes tous les samedis soirs. C'est une information du journal 20 minutes. Ce sera après la seconde partie de soirée, hein, vers minuit. France TV Slash garde quand même une forme d'exclusivité, hein, pendant quelques jours, puisqu'elle mettra en ligne les épisodes chaque jeudi avant la diffusion télé.
Qui l'aurait dit, après toute cette affaire, Disney veut finalement retravailler avec Johnny Depp.
Et oui, la presse américaine se fait l'écho d'une proposition qui aurait été faite à l'acteur, une proposition de 301 millions de dollars pour qu'il remette... Je vous avais dit que c'était un gros chèque.
Ce que j'adore, c'est le 301.
Ah ben oui.
300, il ne voulait pas, ils lui ont dit 301, il a dit d'accord.
Pour qu'il remette son costume de Jack Sparrow, le célèbre personnage de Pirates des Caraïbes dont vous entendez la musique. Disney souhaiterait faire un sixième film et une série dérivée sur sa plateforme Disney+, série qui raconterait les débuts du capitaine. Le studio tente donc de reconquérir l'acteur après l'avoir lâché publiquement en 2018. Il était alors accusé de violence contre son ex-femme Amber Heard. Depuis, il a gagné son procès en diffamation contre elle, très médiatisé. Mais à noter que la proposition aura été faite par Disney avant de connaître le verdict.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos sont à retrouver dans notre newsletter média. C'est sur europe1.fr. C'est pas 301 millions, c'est gratuit. europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant sur Europe 1, notre info média du jour. Quand Mediapart enquête sur Mediapart, j'explique, le site d'information révèle avoir hébergé sur son site des blogs, son site de blog, pardon, des notes commandées par une entreprise en charge de la réputation d'entreprise du CAC 40 et surtout de certains dictateurs. Antoine Rouget, journaliste à Mediapart et co-auteur de l'enquête, est notre invité. Il arrive dans ce studio.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Quand Mediapart enquête sur des publications douteuses de Mediapart. C'est une fraude à l'information d'une ampleur rarement égalée. Le site d'info Mediapart révèle cette semaine les agissements de l'entreprise française Avisa Partners, spécialisée dans la cybersécurité, mais également dans l'influence dans les médias et sur le numérique. Cette société embauchait des rédacteurs pour produire des billets, des faux billets, pourrait-on dire, de blogs publiés sur des sites participatifs sous de fausses identités. Le but de ces publications ? Produire des articles qui allaient dans le sens de leurs clients, parmi lesquels des entreprises du CAC 40 et certaines dictatures. On doit ces révélations à l'un des auteurs de l'ombre qui a décidé de rendre publiques ses activités dans le journal Fakir. Et depuis, la rédaction de Mediapart a enquêté et a découvert qu'elle avait elle-même été victime de ces faux articles sur son site participatif. Elle en a décompté, dénombré pas moins de 634 notes qui ont depuis évidemment toutes été retirées. Bonjour Antoine Rouget.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le site d'info Mediapart. Vous avez co-réalisé cette enquête. Un Mediapart qui abrique des fake news en son sein, ça paraît énorme. D'abord, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le club Mediapart où pouvaient se lire ces 634 billets ?
Donc, il faut rappeler que la création de Mediapart, c'est sur deux jambes en fait. La partie journal avec notamment l'investigation, l'enquête qui fait aujourd'hui la reconnaissance de Mediapart et une partie participative qui permet en fait à chaque abonné de Mediapart, aujourd'hui on en compte plus de 200 000, d'ouvrir un blog et d'interagir, d'écrire des billets, soit des billets d'humeur, soit des billets y compris sur notre couverture. Il arrive qu'on puisse être bousculé dans notre couverture du journal par des abonnés qui expriment des opinions divergentes. Et l'idée, c'est vraiment de créer un espace serein de discussion permettant justement à nos abonnés de s'exprimer dans une logique un petit peu de free speech en fait, ouais. Là où beaucoup de médias
ont de parole libre, là où
beaucoup de médias ont renoncé finalement, y compris dans la gestion des commentaires, dans la fermeture des blogs, etc. Il y a eu un mouvement ces dernières années de beaucoup de médias, dont Le Monde par exemple, de fermer les blogs ou de rester sur des blogs spécialisés. Nous, il y a vraiment une volonté de continuer à interagir avec nos abonnés et donc d'alimenter ce club de Mediapart.
Question cruciale, est-ce que les articles sont relus, sont visés avant publication?
Non, la modération se fait a posteriori avec un système, y compris interne, de signalement, c'est-à-dire qu'un abonné qui verrait des fausses informations ou qui sentirait un billet douteux peut très bien signaler. Et on a une équipe interne de 4 journalistes dont le travail en interne est de réguler et d'organiser le club de Mediapart.
Alors vous parlez vous-même de, je vous cite, l'une des plus grandes entreprises de manipulation de l'information intervenue. À l'origine de ces révélations, c'est le témoignage d'un de ses rédacteurs que vous appelez Julien. Il a d'abord témoigné dans le journal Fakir. Qui est-il et pourquoi a-t-il décidé de parler ?
Donc c'est un journaliste indépendant, pigiste, qui, il y a 6 ans, a commencé à travailler pour une agence dont il ignorait tout, à la fois l'organisation, les clients, les pratiques, et qui a commencé à vendre des piges, comme le font beaucoup de journalistes indépendants.
Cette agence, c'est Avisa Partners, dont je parlais en préambule.
Oui, tout à fait. Et ensuite, il était rémunéré par le truchement d'autres sociétés, mais qui sont elles-mêmes prestataires d'Avisa Partners. Et donc, on lui a commandé des sujets extrêmement précis. Il en a rédigé des centaines pendant ces 6 années. Chaque mois, il y avait un volet de 4 à 5 billets en moyenne qu'il rédigeait. Et il s'est rendu compte que c'était à chaque fois sur des commandes très précises, en fait, des sujets liés à des domaines de compétences par ailleurs qu'il n'avait pas, mais il s'adaptait. Et il a détecté à chaque fois dans les commandes qui lui étaient faites des potentiels clients pour lesquels, en fait, il devait réaliser ces billets. Et ces billets, ensuite, il les envoyait en fichier Word et étaient publiés sous de fausses identités sur des espaces participatifs, dont le club de Mediapart.
Alors, vous avez fait une recension, vous écrivez sur le blog du club Mediapart, on pouvait lire ça. Les titres des papiers, par exemple, Uber, la justice pas si fâchée que cela. Un autre papier, comment les marques de luxe profitent de la crise. Émirats, Arabie Saoudite, faux alliés, vrais ennemis. Le vin, véritable or rouge de la France. Ou alors, l'attitude irresponsable d'Anne Hidalgo. Ces articles ne sont pas tous rédigés au nom de Julien. Vous l'avez dit, vous avez recensé sur votre site 200 profils différents, comme Hugo Revon ou Laure Martin. Était-ce uniquement Julien qui se cachait derrière ces 200 faux profils ou d'autres personnes?
Non, la possibilité de cette enquête, en fait, c'est donc Julien, en toute transparence, a échangé avec nous sur les profils qu'il avait détectés et qui portaient finalement les textes et les billets qu'il avait lui-même rédigés. Et en fait, par recoupement à la fois les 4 journalistes du club de Mediapart et les équipes techniques, en fait, de Mediapart, en interne, ont pu recouper et trouver des comptes associés, soit avec des identifiants de paiement qui étaient identiques, soit avec des adresses IP qui correspondaient. Et c'est là qu'on a pu, en fait, découvrir une arborescence et découvrir l'ampleur du phénomène dans les soutes, finalement, de Mediapart et des billets de blog de Mediapart, avec toujours des thématiques effectivement extrêmement précises. Et ce qui est intéressant, c'est que de premier abord, ces billets paraissent équilibrés. Et en fait, on se rend compte, y compris dans les commandes qui ont été faites à Julien, qu'il y a toujours une volonté à un moment de glisser un nom, de valoriser une personne, d'en incriminer une autre pour répondre à la commande du client.
Vous dites que les sujets abordés sont précis et parfois même très pointus. Exemple, celui qui concernait un référendum organisé par un dictateur au Congo-Brazzaville en 2015. Il faut aller chercher celui-là. Ou les efforts du Kazakhstan dans la lutte contre le réchauffement climatique en 2017. Est-ce que c'est des papiers, pardon de sourire, qui ont beaucoup été lus par vos abonnés ou lecteurs? Est-ce que vous avez pu consulter les statistiques de ces pages?
C'est évidemment ce qu'on a regardé, à la fois les statistiques et puis de savoir si nous, on n'avait pas commis d'erreur en montant à la une et en valorisant nous-mêmes ces billets-là. Ils ne l'ont pas été. Mais ce qui est intéressant, par exemple, sur les cas des billets de blog en lien avec l'Afrique, c'est que des salariés d'Avisa Partners que nous avons aussi rencontrés dans le cadre de notre enquête nous ont expliqué que l'intention ou l'enjeu pour le client n'était pas tant une diffusion massive en France, mais une reprise notamment dans la presse loyaliste des pays concernés. C'est-à-dire qu'on peut après avoir des médias, notamment au Congo-Brazzaville, qui disent regardez, la presse européenne, qu'elle soit suisse ou française, par exemple, dit que l'opposition est moribonde et que le renouvellement de la Constitution est une très bonne chose. Et donc, ça, finalement, la marque Mediapart vient s'adosser à un contenu que nous n'avons pas rédigé et donc trompe le citoyen dans le pays concerné.
En validant l'article que vous n'avez pas écrit vous-même, on n'a pas encore parlé de cette société Avisa Partners. Antoine Rouget de Mediapart est avec nous. Culture Média continue.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Quand Mediapart enquête sur des publications douteuses de Mediapart, c'est sur le site de Mediapart, chacun peut poster des billets. Or, vous avez découvert, grâce à un journaliste que vous appelez Julien, que certains billets qu'il avait écrits sous diverses identités n'étaient pas totalement, sincèrement, le reflet de sa pensée, mais des commandes. C'est sur le site de Fakir, ce trimestriel, que Julien partage le genre de mail qu'il recevait de son employeur, car il y a un employeur, pour chaque commande d'article. Je vous lis, Antoine Rouget, je lis votre papier. En tout cas, là, je lis le SMS. Salut, j'ai un article à te commander. Donc, il en écrit à Julien. J'ai un article à te commander pour la semaine prochaine, 60 euros. Dis-moi si c'est bon pour toi, avec un petit smiley. Un article sur l'adhésion du Monténégro à l'OTAN qui suscite de plus en plus de polémiques. Il faut que l'article soit neutre et journalistique, tout en développant que le Monténégro est trop corrompu et victime de trop de crimes pour adhérer à l'OTAN. Ne pas parler de la Russie. Voilà, merci encore. Fin de citation. Comment Julien a-t-il été recruté et sait-il vraiment pour qui il travaillait?
Donc il a été recruté par une agence qui gère des pigistes. En fait, il a envoyé un CV, il était à la recherche de piges en tant que journaliste indépendant. Et il travaillait, c'est intéressant ce mail par exemple que vous avez lu, il travaillait en fait en relation totalement anonyme avec ses supérieurs hiérarchiques. C'est-à-dire que quand il a cherché un petit peu à savoir qui étaient les personnes qui lui passaient commande, en fait ces personnes agissaient, y compris avec lui, sous pseudo. Donc les choses sont extrêmement cloisonnées. Et c'est au fur et à mesure, finalement, il a travaillé pendant 6 ans, qu'il a pu recouper à la fois l'identité de certaines personnes qui étaient au-dessus de lui, se rendre compte que les billets qu'il rédigeait étaient effectivement publiés sur des plateformes de blog sous fausses identités, et aussi recouper l'identité de certains clients. Parce qu'il y avait des numéros, notamment sur ses facturations, et donc il s'est rendu compte qu'un certain nombre de clients étaient au cœur de pas mal de thématiques qui permettaient de dévoiler de qui il s'agissait. Là, en l'occurrence, c'est intéressant de voir qu'il faut, dénigrer l'adhésion du Monténégro, mais surtout ne pas parler de la Russie. Et donc on voit bien qu'il y a un enjeu de masquer un acteur dans ce dossier-là, et on se doute qu'il n'est pas très très loin de la commande.
Derrière tous ces faux articles, une société française, Avisa Partners, société dirigée par Arnaud Dassier, un proche de Nicolas Sarkozy et d'Éric Zemmour, écrivez-vous, et le fils d'un ancien directeur d'un service de renseignement militaire, Mathieu Creux. Cette société, Avisa Partners, est spécialisée en intelligence économique et en cybersécurité. Quel genre de prestations réalise-t-elle à ce titre ?
Donc elle a une partie renseignement. Il faut savoir que c'est une société très bien connectée au milieu du renseignement. Par exemple, l'ancien patron de la sécurité intérieure, du renseignement intérieur, Patrick Calvar, fait partie de cette société. Elle a aussi beaucoup de réseaux dans la diplomatie. L'ancien numéro 2 du Quai d'Orsay, Maurice Gourdeau-Montagne, a été aussi recruté par Avisa Partners. On peut aussi prendre l'exemple de Sylvain Faure, l'ancienne plume d'Emmanuel Macron, qui écrivait ses discours à l'Élysée, qui a aussi fait toute sa campagne 2017, a été recruté par Avisa Partners. Il vient d'en partir. Et donc, les deux branches, finalement, d'Avisa Partners, c'est la partie renseignement privé, et influence pour des grandes entreprises ou des dirigeants d'entreprises ou des dirigeants de pays étrangers. Il faut savoir que l'influence, ça existe. Le sujet ici, c'est pas tant le but, mais c'est le moyen par lequel et les fins utilisées par Avisa Partners pour arriver à cet objectif-là.
Vous citez certains clients d'Avisa Partners en 2020. C'était Mathieu Creux qui détaillait sa société au magazine Causeur. Clientèle impressionnante, Interpol, le Ghana, la Côte d'Ivoire, San Marin, le Togo, la Commission européenne, le ministère des Armées, BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, la Banque Palatine, AXA, les assurances, CNP Assurance, Engie, EDF, Total, L'Oréal, LVMH, Chanel, Carrefour, Casino. Vous écrivez, c'est là où le plus intéressant, des documents internes à Visa Partners obtenus par Mediapart montrent aujourd'hui une palette plus vaste encore de clients étatiques, dont certains pays qui sentent le soufre. Qu'entendez-vous par là ? Quel pays ?
Par exemple, le Kazakhstan. Le Kazakhstan est un gros client d'Avisa Partners. Et c'est intéressant de voir qu'il n'a pas été développé par Mathieu Creux quand il a donné une partie de la liste de ses clients. Il y a aussi on en a parlé tout à l'heure, des dirigeants étrangers comme Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, qui sont des personnalités à minima sulfureuses. Hein. Ce sont des régimes autoritaires, dictatoriaux. Et donc, on voit bien que le danger que représente l'infiltration d'espaces participatifs pour le compte de cette clientèle-là, surtout dans le contexte géopolitique actuel avec le début de la guerre en Ukraine.
Antoine Rouget, dernière question, elle concerne l'actualité, elle concerne l'affaire Aziz Zemmouri, journaliste au Point, qui avait publié la semaine dernière une enquête erronée à propos du couple de députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière. Vous aviez mené rapidement une contre-enquête avec le journaliste David Perrotin dans Mediapart, enquête qui démontrait les failles du papier de Zemmouri. Hier, il a porté plainte pour abus de confiance contre le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui serait, dit-il, à l'origine de la manipulation dont il a été victime. Lagarde qui a battu aux législatives par Raquel Garrido, j'y arrive. Est-ce que vous confirmez ces informations ? Est-ce que vous en avez d'autres ? Est-ce que vous avez continué à creuser ce sillon et cette affaire ?
Oui, on continue à creuser cette affaire, mais sur une dimension qui nous semble la plus importante, qui est celle de la responsabilité de la direction du Point. J'ai été extrêmement interpellé par les explications fournies par Étienne Jarnel, directeur du Point, à votre antenne lundi dernier. Il a lâché en rase campagne son journaliste. Pour moi, un responsable et un directeur de rédaction doit assumer dans ces cas-là, dans la tempête, il doit prendre le vent et assumer. Là, j'avais l'impression d'entendre le capitaine du Costa Concordia qui prenait sa barque et s'en allait rapidement en laissant les autres couler. Donc moi, j'ai une pensée sincère pour les journalistes qui font sérieusement leur travail au Point. Il y en a et qui aujourd'hui finalement subissent les conséquences à la fois d'agissements de certains journalistes dont les agissements étaient connus, hein, bien au-delà de l'affaire Garrido-Corbière, et aussi de la lâcheté de leur propre direction.
Article à lire dans Le Point demain, et votre enquête, savez-vous quand vous allez la publier? Est-ce qu'il y a des dates, est-ce qu'il y a des deadlines où vous publiez une enquête à Mediapart quand vous la jugez terminée et close?
On publie quand elle est terminée et close, notamment avec une phase très importante pour nous, qui est la phase du contradictoire. On attend évidemment la réponse des intéressés, et on sollicite Étienne Jernel actuellement pour l'enquête qu'on est en train de mener sur les pratiques du Point.
Merci beaucoup Antoine Rouget. Je rappelle le sujet qui nous a intéressé de prime abord aujourd'hui, ce matin. Opération Intox, une société française au service des dictateurs et du CAC 40. Enquête à lire sur le site de Mediapart. Signée également, c'est important de le dire, par Fabrice Arfi et les journalistes slovaques Thomas Medlenak et Lucas Diko. Pourquoi deux journalistes slovaques?
Parce que l'un des prestataires d'Avisa, qui payait notamment les pigistes en France, est basé à Bratislava, donc il fallait qu'on enquête là-bas.
Pas souvent qu'on soit payé depuis Bratislava pour un papier écrit en France. Merci d'avoir été avec nous.
Merci
en
vous.
Direct dans Culture Média. Dans un instant, tout à fait autre chose. L'Euro féminin, ça démarre le 6 juillet. Ce sera sur TF1 notamment. On sera avec un nouveau duo qui va couvrir la compétition, Marine Marc et Julien Ménard. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
C'est un duo inédit que je reçois ce matin. Bonjour Marine. Bonjour Marine Marc.
Bonjour.
Je m'habitue à votre nom, c'est la première fois que je le prononce. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous êtes journaliste sportive, spécialisée dans le football. Vous avez intégré l'équipe de téléfoot sur TF1 en juillet dernier. Et vous allez partir en Angleterre pour suivre l'Euro féminin de foot. Ce sera du 6 au 31 juillet. Vous ne serez pas seul évidemment. Bonjour Julien Ménard.
Bonjour.
Première fois également que vous venez ici dans Culture Média, première fois que je prononce votre nom, j'en suis ravi. Journaliste sportif également à TF1, vous serez aussi de ce voyage en Angleterre pour l'Euro féminin de foot. TF1 a signé l'exclu en clair des matchs de foot. On pourra également les voir sur Canal+, les 31 matchs, mais ce sera encrypté. Question simple, quel match va-t-on voir sur TF1 et par extension sur les chaînes du groupe TF1? Quel sera le dispositif? D'abord les matchs et ensuite le dispositif. Qui veut commencer?
Je peux commencer. Les matchs, Marine. Ce sera les 14 plus belles affiches. Évidemment, on va se concentrer notamment sur l'équipe de France. Vous savez qu'elle jouera son premier match le 10 juillet face à l'Italie. On sera évidemment présents. Ce sera sur TF1. Et puis ensuite, les demi-finales, la finale, évidemment. Les plus belles affiches.
Moi, j'ai noté les 14 plus belles affiches. Exactement. En direct sur TF1, sur TMC. 13 en prime time, mais comme vous êtes en direct, vous êtes en prime time, vous passez les matchs à l'heure où ils sont joués. Les 9 meilleurs matchs du premier tour, les 3 matchs des Français, vous l'avez dit, et les 6 meilleures affiches, sauf la France, sur TMC. Ensuite, ce sera la deuxième phase du 21 au 31 juillet, les 5 meilleurs matchs de la phase finale, les 2 meilleurs quarts en prime time sur TF1, dont le match de la France, si elle est qualifiée. Je peux demander tout de suite si la France va se qualifier, parce que moi j'ai encore la douleur de l'élimination contre les États-Unis. Vous vous souvenez de ce match?
Bah oui, on s'en souvient.
C'est vrai? Vous y étiez?
C'était dur, ouais, effectivement.
Ouais. Mais non, oui.
Et puis les demi-finales et la finale sur TF1. Comme toujours, les matchs à voir, à revoir sur MyTF1 et à revoir en replay. Quel dispositif, là, ça qui est intéressant, deux commentateurs? Vous êtes toute une équipe. Il n'y a pas seulement vous deux. Qui d'autre vient avec vous?
Il y a deux équipes. La première, c'est Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu, accompagnés de Marine au bord du terrain. Et moi, je serai accompagné de Sabrina Delannoy pour les autres rencontres. L'Angleterre notamment, qu'on a hâte de suivre, parce qu'à domicile, avec le public, l'ambiance, ça va être sympa.
Sabrina Delannoy, qui est-elle?
C'est une ancienne joueuse du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France.
Et vous allez être à l'antenne tous les deux, chacun. Vous allez commenter les matchs.
C'est ça, tout à fait.
Marine Marc, le match d'ouverture, ce sera Angleterre-Autriche, c'est ça?
Exactement, ouais.
Vos
avec Grégoire et Bichente. Et moi, je commencerai auprès des Bleus le 10 juillet, au bord terrain, donc au plus près, pour vous faire vivre les petites anecdotes et tout ce qui se passe autour de la rencontre.
Je ne sais pas qu'on disait au bord terrain. On ne dit même plus le du. On ne dit même plus au bord du terrain. On dit au bord terrain.
C'est vrai, c'est peut-être notre jargon. Ouais. Hein, peut-être qu'il manque des déterminants.
Non, j'apprends tous les jours le jargon. Voilà. Et je vois que vous connaissez le mot déterminant. Julien, quel sera votre rôle, si j'ose dire, sera-t-il déterminant?
Moi, je vais commenter les autres affiches, donc pas les matchs de l'équipe de France, mais l'Angleterre, l'Allemagne, la Norvège, des équipes que la France pourrait retrouver un petit peu plus loin dans la compétition.
Voilà. Tout se joue en Angleterre, tout se joue à Londres ou c'est éparpillé dans tout le pays?
Non,
il y en a à Liverpool, j'ai pas regardé, j'avoue.
Il y a Manchester notamment, à Old Trafford, donc le stade mythique de l'équipe de Manchester United, qui devrait être plein. Londres, Brighton, il y a plusieurs villes.
Il y a Rotherham pour l'équipe de France pendant tout le premier tour et peut-être pour son quart de finale. Voilà.
C'est pas la ville la plus connue.
Ouais. Non, mais je suis sûre que ça sera génial.
Voilà, vous m'avez déjà humilié avec le déterminant et maintenant l'accent, je suis scié, je suis séché. Blague à part, il faut également parler de tout le dispositif de TF1, notamment Denis Brognard qui reprend du service.
Oui, puisqu'après les matchs, il y aura les mags présentés par Denis Brognard pour suivre l'actualité de 7 euros et notamment tout ce qui se passe autour de l'équipe de France, également des interviews des joueuses.
Denis sera, je le dis Denis puisque je le connais un peu, Denis Brognard sera depuis Paris ou en Angleterre ?
À ma connaissance, depuis Paris. Après, ça peut peut-être évoluer si les Françaises vont loin.
Ce qu'on souhaite.
Il sera également avec deux consultantes, je vais les citer, Camille Abili, ancienne joueuse et actuellement entraîneur adjoint à l'Olympique Lyonnais, et Nadia Ben Mokhtar, qu'on a entendu sur France Info, ancienne joueuse et consultante football. Et il y aura aussi le journal de l'Euro féminin.
Il y a énormément de choses, effectivement. Vous avez le journal de l'Euro qui sera autour du JT de 13h. Vous avez Rendez-vous Sport en Bleu qui, lui, est plutôt autour à la suite du JT de 20h. Donc Rendez-vous Sport en Bleu, c'est vraiment concentré sur l'actualité de l'équipe de France. C'est votre petite dose de rappel de ce qui s'est passé dans la journée. Et le journal de l'Euro et la provocation de vous faire vivre tout l'Euro et toute l'actualité autour de toutes les équipes.
Comme vous parlez bien anglais, je vous posais une question. TF1 annonce également un spin-off digital présenté par Thomas Mekich. Spin-off, ça veut dire quoi? On verra quoi?
Alors, c'est la quotidienne de Téléfoot qui est un super produit qui marche très bien depuis des années et qui donc va être largement consacré à l'Euro. Ça se regarde sur tous les réseaux. Énormément d'abonnés, énormément de jeunes abonnés. C'est aussi...
Plus une offre éditoriale dédiée sur le site auféminin.com. Il y aura quoi, vous le savez ou pas du tout?
Il y aura des portraits, des interviews aussi, il me semble. L'idée, c'est aussi d'utiliser toutes les plateformes et les différentes plateformes du groupe TF1 pour montrer des lumières différentes sur ces équipes et ces joueuses.
Télescopage avec l'actualité, je ne sais pas si vous le saviez, on a appris hier que TF1 a signé un accord avec le groupe Reworld Media et pour lui céder de nombreux sites tels que Marmiton, Doctissimo et auféminin.com. Vous étiez au courant?
Nous, on fait le foot.
Moi, je l'ai appris ce matin en venant.
Voilà, moi aussi. On va parler de cet engouement pour l'Euro féminin de foot. La Coupe du Monde qui avait été organisée en France il y a 3 ans, la Coupe du Monde féminine, avait réalisé des prouesses en termes d'audience. Vous avez les chiffres en tête?
Alors de mémoire,
on était
à plus de 9 millions, je crois, sur les matchs de l'équipe de France. Quart à plus de 11 millions, c'était un carton.
9,9 millions de téléspectateurs, donc ça touchait les 10 millions. Le record, c'était le quart de finale France-États-Unis, 10,7 millions. Vous avez pleuré, moi aussi, on a perdu 1-2.
Oh, c'était horrible.
C'est vrai?
Mais c'est un mauvais souvenir, mais effectivement, parce que c'était en France en plus. Donc il y a eu vraiment cet engouement populaire, on les avait suivis pendant des semaines. Et donc ça s'arrête un peu brutalement à notre go.
Sur le terrain, c'est un mauvais souvenir, mais par contre, c'est vrai que dans les tribunes, c'était génial. Vraiment une belle fête.
La bonne nouvelle, c'est que la France avait perdu contre les États-Unis. Pourquoi c'est une bonne nouvelle?
Parce qu'ils sont pas là.
Culture Média continue. Les espoirs de la France en Coupe d'Europe. On est avec Marie-Marc et Julien Ménard. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Marie-Marc et de Julien Ménard, ce sont deux nouvelles têtes qui vont accompagner l'équipe de France de foot. C'est l'Euro qui va démarrer le 6 juillet jusqu'au 31 en Angleterre. On l'a dit, la France avait perdu contre les États-Unis, mais devant une audience absolument colossale, on comprend l'engouement de TF1. Ce quart de finale France-États-Unis avait réuni 10,7 millions de personnes, et je ne cite pas le pic qui touchait presque les 12 millions. Quel résultat, cette fois-ci, peut-on attendre des Françaises? Elles gagnent tous leurs matchs, si j'ai bien suivi, mais c'est des matchs amicaux, et c'est difficile d'avoir une idée du niveau d'autres équipes. Vous les voyez où, les Françaises?
On espère en tout cas, et je pense que c'est là le premier objectif qui me paraît indispensable, c'est de passer la phase de poule. C'est contre l'Italie, la Belgique, contre l'Islande, normalement c'est à leur portée.
C'est abordable.
Oui, et ensuite effectivement on tombe de toute manière sur les matchs à élimination et on le sait, c'est une science moins exacte.
J'ai mal posé ma question. Tout le monde peut classer peu ou prou les équipes de foot chez les garçons. Mais chez les filles, comment se situe la France dans le concert des nations européennes?
Elles font partie des meilleures nations en Europe.
Des 10 ou des 3?
Des 5.
Des 5, voilà. Voilà, elles sont dans le top 5. Voilà.
Mais elles ont une équipe assez jeune, il y a une nouvelle génération, il y a des stars. On se dit qu'il y a quand même tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne.
D'accord. Enfin, il y a des stars, il y a deux stars qui ont été écartées du groupe par la sélectionneuse qui s'appelle Corinne Diacre. Amandine Henry et Eugénie Le Sommer ne seront pas dans le groupe. Est-ce que c'est une bonne décision selon vous?
Je me garderai bien de commenter les décisions de la sélectionneure. On sait qu'il faut faire des groupes. Elle a sans doute fait des choix en son âme et conscience. Ce sont deux excellentes joueuses qui ont porté haut l'équipe de France. Aujourd'hui, la sélectionneure a décidé de faire confiance à d'autres.
Vous savez ce qu'on dit en général, si elles vont au bout et qu'elles gagnent, on dira que la sélectionneure a fait le bon choix. Sinon, il y aura des débats, évidemment.
Je me souviens de la Coupe du Monde 97. On avait reproché, il y avait une campagne monstrueuse dans la presse, y compris ici, parce que ici c'était Canal+, au Guignol, parce que Aimé Jacquet avait écarté du groupe Cantona, tout le monde avait râlé, il a sorti un inconnu au milieu de terrain dont on ne connaissait pas le nom, il s'appelait Zinedine Zidane, ils ont gagné 3-0 et plus personne n'a jamais reparlé de Cantona.
C'est un peu ça, c'est le jeu, c'est-à-dire qu'elle est obligée de faire des choix, Corinne Diacre, et derrière on verra si elle a eu raison ou non. On souhaite qu'elle ait raison en tout cas, que la France aille loin et remporte cette Euro.
Dans quelle mesure vous êtes libre de parole à l'antenne, je veux dire le sens de ma question, sachant que TF1 doit avoir, c'est normal, un rapport privilégié avec l'équipe de France. Est-ce qu'on vous a dit d'aller doucement ou est-ce que vous,
on a le droit... Absolument pas. Aucune consigne en ce sens, que ce soit d'ailleurs pour les filles ou pour les hommes. Voilà, on est des journalistes avant tout. On a une neutralité, une objectivité par rapport aux performances qu'on commente. Aucune indication dans ce sens.
Pareil.
Puis on n'est pas forcément là pour donner notre avis. On est plutôt là pour raconter ce qu'on voit, ce qu'on entend.
Est-ce qu'il y a une différence quand on travaille autour des garçons et autour des filles dans le football? On a l'impression que les joueuses sont plus faciles d'accès, mais peut-être que je dis là une impression seulement, moins cadenassées, il y a moins d'entourage.
C'est vrai, après c'est possible aussi chez les hommes d'avoir des bons rapports avec les joueurs. Moi je ne fais pas forcément de différence, c'est plus les relations, il y a des fois où ça marche bien, ça fonctionne bien avec des personnes et avec d'autres moins. Bah là, c'est la même chose, quoi. C'est du foot, mais c'est la même chose, c'est des relations humaines.
Ouais, mais je veux dire, est-ce que vous arrivez de les croiser, etc. Les journalistes nous vous disent, quand ils suivent le championnat de France, on peut suivre les clubs, mais le PSG, c'est très, très, très difficile. Il y a deux membres d'un staff pour chaque joueur et ça devient de plus en plus difficile. Même en étant journaliste dans la place, ils sont de plus en plus éloignés.
Si, ça arrive de croiser les joueurs ou les joueuses, ça peut être dans d'autres contextes, au restaurant, un concert, j'en sais rien. Mais oui, ça arrive.
Ouais. Pourquoi ça vous fait sourire?
Parce que j'aimerais bien tomber sur Neymar à un concert.
Voilà.
Mais non, au-delà de ça, effectivement, en plus, on est là dans des compétitions internationales, c'est très encadré. Donc l'accès, en plus, il est favorisé, privilégié. Donc vous inquiétez pas, il y aura toutes les infos nécessaires.
On va parler de musique dans la deuxième heure de Culture Média. Mais vous savez quoi, on va même parler de musique maintenant. C'est l'hymne officiel de l'Euro. Pourquoi on vous en passe quelques notes? Car il est signé Hyphen, et c'est assez rare pour te signaler, c'est un groupe français. Vous connaissiez ce titre?
Oui, on l'avait entendu, mais c'est bien, il est entraînant.
On va l'entendre tous les
jours. Et on va l'entendre beaucoup, donc heureusement qu'il est très chouette.
Est-ce que vous suivez les championnats féminins à l'année? Qui sont les grands noms? Qui attend-on de voir sur le terrain?
Pour l'équipe de France? Pour les autres?
Pour tout le monde.
Pour tout le monde, bah... Si on cite l'équipe de France, il y a les grands noms. Et puis, il y a celles qu'on a vues se révéler cette année. Je pense à Selma Bacha, par exemple, de l'Olympique Lyonnais, qui a fait une saison super, qui a été appelée là, pour 7 euros. Et que moi, j'ai hâte de voir s'épanouir au sein de cette équipe de France. Pour les autres, c'est plutôt temps rayon.
Ce qui est sympa aussi, c'est que moi, je suis en train de travailler sur les autres nations. L'Angleterre, l'Allemagne, la Norvège. En général, il y a au moins une grande star par sélection. Mmh. La Norvège, par exemple, avec l'attaquante Ada Hegerberg, qui joue à Lyon et qui a été ballon d'or.
Je me souviens très très bien d'elle.
L'Espagne qui a aussi un ballon d'or dans ses rangs. Les Anglaises qui ont une nouvelle génération. Donc vraiment, il y a pas mal de joueuses qui vont être intéressantes à suivre.
Voilà, c'est elle à qui un DJ français avait demandé si elle savait twerker.
Oui. C'est ça.
Je me souviens de cette séquence. Petite question personnelle pour chacun de vous deux. Julien, comment vous êtes arrivé à Téléfoot?
Je suis arrivé par l'intermédiaire d'un stage après mon école de journalisme. C'était il y a 10 ans.
Ouais.
Et j'y suis toujours.
Et Marine Marc, c'est la même question. Je sais ça, vous êtes arrivé à Téléfoot par Téléfoot. Mais un autre Téléfoot qui a coulé,
un
dont on a beaucoup parlé ici.
Oui, effectivement, qui avait fait grand bruit, mais dont moi, personnellement et professionnellement, je garde un souvenir excellent.
C'était la chaîne qui avait été montée par le groupe sino-espagnol Mediapro.
Exactement.
Et qui avait acquis les droits du football presse pour 1 milliard et qui s'est arrêté en race
assez
campagne.
Assez rapidement, tout à fait. Voilà. Après, moi, mon histoire avec TF1 date de 2015, et notamment avec les sports, donc c'est... Ouais, Téléfoot était une étape de plus dans cette histoire avec le groupe.
Voilà. Et parcours atypique, vous avez fait Sciences Po avant.
Absolument.
Voilà. Vous avez débuté, si je suis au courant, vous étiez à France Télévisions dans Télématin.
Exactement, vous êtes très bien renseigné.
Bah, j'ai fait un truc de dingue, j'ai fait comme Julien Ménard, avant de faire une interview, je travaille. Mais la prochaine étape, on se demande ce que ça va être. Parce que c'est quand même totalement disparate et c'est pas un défaut.
J'ai la chance d'avoir pu toucher à tout et d'avoir de belles expériences, donc j'espère que ce n'est que le début.
Merci d'avoir été avec nous tous les deux, Julien Ménard, Marine Marc. Je rappelle, l'Euro féminin de foot, c'est sur TF1 du 6 au 31 juillet en Angleterre. On entend l'hymne. Et je rappelle que Canal+ va diffuser l'intégralité des 31 matchs de la compétition, mais ce sera encrypté. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Vous partez quand en Angleterre ?
Mardi prochain.
6. Bah, il est même pas au courant. Culture Média continue, il n'a pas fait son sac non plus. Après les infos de 10h, les télescopages de Bruno Donnet, il a vu Emmanuel Macron apostropher Joe Biden au G7 et il a été très embarrassé par cette séquence. Nos invités, les membres du groupe de pop-rock Cats on Trees, on parle de leur dernier album et d'une tournée. Et puis dans les indispensables, Lord d'Autriche va tenter de percer le secret des violons Stradivarius. Et puis Olivier Benkemoun nous présente un film qui sera peut-être le polar de l'été. Marc-Antoine Lebray pour clore l'émission. Quel programme ? À tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.